Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 15h, avec vous au 32-16 et sur l'application RMC, rubrique Direct Studio, pour nous envoyer vos messages, vos réactions, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Ils seront relayés demain de maître par Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Daniel Riolo est là aussi, salut Daniel.
Salut tout le monde.
Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante à Dijon, salut Emmanuel.
Salut Estelle, bonjour
et
tout le monde.
Thierry Moreau est là, salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, l'appel à la grève de la CGT qui devrait faire pchit malgré la réforme des retraites, la flambée des prix de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat. Les Français ont-ils perdu le goût de la révolte? On vous attend au 32-16. Midi et demi, des députés qui réclament l'accès à Internet dans les prisons pour faciliter la réinsertion des détenus. Est-ce que ça vous choque? À 13h, Engie et Total Energy qui veulent verser des primes pour ceux qui font des économies d'énergie chez eux cet hiver. Bonne ou mauvaise idée? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera du gaspillage alimentaire. 67 euros par mois et par Français de gaspillage alimentaire. Et puis à 14h, invité spécial dans Estelle Midi, ce sera Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative en France. Vous pouvez lui poser d'ores et déjà toutes vos questions au 32-16. On parlera avec elle de la réforme des retraites, de la crise de l'énergie, du manque de bénévoles pour les JO 2024 et bien sûr des violences faites aux femmes. Et puis très beau cadeau à gagner aujourd'hui dans Estelle Midi, Thibaut.
RMC vous envoie à la Coupe du Monde pour assister au match Tunisie-France. Ce sera le 30 novembre prochain. Le vol pour le Qatar, l'hébergement et vos places pour le match, tout est à nos frais. Il ne vous reste plus que quelques minutes pour vous inscrire en envoyant RMC au 732-16. RMC au 732-16. Peu avant 15h, nous prendrons à l'antenne l'auditeur qui représentera l'équipe d'Estelle Midi au concours qui réunit toutes les émissions d'RMC et qui sera assuré, quoi qu'il arrive, de remporter un beau maillot de l'équipe de France. Envoyez RMC au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 7, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite avec l'actualité du jour. C'est bien sûr la CGT qui appelle à la grève générale pour réclamer notamment des hausses de salaire. Et alors que tout le monde prédit une explosion sociale depuis des mois, alors qu'il y a une flambée des prix de l'énergie, qu'on s'inquiète pour les retraites, eh bien cet appel à la grève semble faire pchit, Thibaut.
Un bilan contrasté pour cette première mobilisation sociale de la rentrée axée sur la hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux. Trafic peu perturbé dans les transports en région parisienne. Comptez 3 trains sur 4 en moyenne pour le RER B. 2 bus sur 3. Légère perturbation également pour les tramways et les trains de banlieue. Pas de perturbation dans les métros. À la SNCF, le trafic sera réduit sur certaines lignes TGV et TER. C'est le cas en Normandie, dans le Nord. Seuls 40% des trains régionaux sont maintenus. Concernés par une crise des recrutements, les enseignants sont un peu plus nombreux à suivre le mouvement. Selon le SNUIP, FSU, près de 20% des enseignants seront en grève avec 40% à Paris et 10% des écoles fermées, 48% en Seine-Saint-Denis. Dans les Bouches-du-Rhône, 300 écoles ont baissé le rideau ce matin. Également touché la restauration, les activités périscolaires, tout comme certaines crèches, mairies et autres services publics tels que les hôpitaux, les bureaux de poste ou les centres des impôts sont également touchés de manière locale. 200 rassemblements sont prévus aujourd'hui dans l'Hexagone à Paris. Le cortège partira de Bastille à 14h. Notez enfin qu'une grève des salariés de Total Energy entamée mardi a engendré hier l'arrêt de la raffinerie de Normandie pour raison de sécurité.
Alors, les Français ont-ils perdu le goût de la révolte? C'est vrai qu'on s'attendait à une plus grosse mobilisation aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Thierry Moreau.
Ah, je pense qu'une partie des gens sont résignés, au moins sur cette question des retraites, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en colère. Donc, faut bien distinguer. Mais la colère aujourd'hui, elle s'exprime plus au travers des élections et donc de l'abstention grandissante aux élections, avec le risque derrière de favoriser les extrêmes. Mais ça, c'est un autre débat.
Ça sert moins pour avoir une augmentation de salaire, quand même.
Oui. Alors après, sur la question des retraites, je pense que les gens sont résignés à l'idée qu'il faudra travailler plus. Ce à quoi ils sont attentifs et ce à quoi, sur lequel nous n'avons pas encore les informations et qui peut mettre les gens dans la rue, c'est les pensions minimum, c'est la prise en compte de la pénibilité, on ne sait pas du tout comment ça va se faire, et c'est les carrières hachées, notamment pour les femmes qui ont une partie de leur cursus professionnel qui n'apparaît pas dans la retraite et donc elles vont toucher très peu. Tant qu'on n'a pas les données pour ça, ce n'est pas la peine d'aller manifester, donc je pense que les gens pensent qu'on va travailler plus tard. En revanche,
et une majorité des Français ne sont pas contre.
Oui.
Juste
oui,
cette idée-là.
Tout à fait.
Et tu as raison de dire qu'il ne doit pas y avoir que ça dans la réflexion.
Exactement. Hein. Mais je pense que le curseur, ce sera les pensions. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas baisser les pensions, voire les augmenter. Alors après, parfois,
personne ne veut baisser les pensions.
Il y a des moments politiques.
Qui a dit qu'il voulait baisser les pensions?
Non, mais parce qu'il y a plusieurs facteurs. Soit on réduit les pensions, soit on allonge le temps de soit on augmente les cotisations, soit on allonge le temps de travail.
Là, on est surtout sur une pension minimum à 1100 euros.
Après, il faut faire attention parce qu'il y a parfois des conjonctions politiques et sociales qui font que, alors que personne n'avait vu venir, bah, il y a des manifestations pour le CPE, par exemple, qui mettent des milliers de gens dans la rue. Il y a des manifestations contre l'enseignement, 84. Le gouvernement l'avait pas vu venir très longtemps.
Ça, c'est l'école. L'école, déjà, il y a tous les étudiants qui manifestent. Donc,
et je pense que la retraite n'est pas un sujet pour lequel on aura 1,3 million de personnes.
Oui, mais aujourd'hui, c'est pas les retraites. Je veux dire, la CGT, elle a appelé la grève générale pour la hausse des salaires. Voilà. On a quand même une inflation qui est à peu près à 6%. Oui, mais... Daniel, et c'est vrai que même dans cette émission, on a eu beaucoup de syndicalistes, on a eu beaucoup de gens qui nous disent, moi, j'en peux plus, je veux descendre dans la rue. Là, c'est l'appel de la CGT, qui est quand même un très gros syndicat français. Et, et en vrai, il n'y a personne dans la rue. Donc, c'est un gros syndicat.
Je sais pas par où partir pour vous répondre, parce que à chaque fois que vous avez fini une phrase, j'avais envie de vous arrêter pour. Donc, je sais plus trop. Parce qu'en fait,
ça, c'est votre style, Daniel.
C'est vrai. Mais la CGT est un gros syndicat. C'est là où je me suis arrêté. J'ai dit non, aujourd'hui, ça représente plus grand monde.
Mais par rapport aux autres, c'est encore conséquent, tu vois.
Très bien. Ensuite, c'est aussi l'effet de. Entre guillemets, on va foutre le bordel, on va y aller pour un tas de sujets. Mais pour quel sujet ? En fait, on était perdus, on comprenait plus rien. C'est-à-dire, ça a quand même été la grande phrase de la NUPES et de Mélenchon. Ce rendez-vous du 29 septembre, ça devait être fantastique.
Alors tout que Mélenchon, il s'est désolidarisé, il fait une marche le 16 octobre.
Ah ouais, mais
justement.
Mais petit à petit, tout le monde s'est désolidarisé. On comprenait plus rien. FO n'est pas dans le coup. Finalement, on a quoi ? On a la CGT et l'Union syndicale solidaire. C'est tout. Ça fait pas grand monde au final. Et pour quel combat ? Et à l'intérieur du combat, si c'est que les retraites, il y a pas mal de questions.
Non, c'est là où
Thierry a raison. Oui, mais il y avait pas que hausse des salaires, mais hausse des salaires, il y a eu une première réponse, notamment sur les enseignants, où on dit, et c'est quand même assez rapide comme décision, que dès 2023, personne ne touchera moins de 2000 euros. Donc il y a déjà eu une première réponse. Donc au final, ça donne quelque chose qui semble réduit par rapport à ce qu'on attendait. Après, pour répondre à la question initiale, est-ce que les Français ont perdu le goût de la révolte ? J'avoue que j'ai moyennement compris cette question parce que je me suis demandé en voulant y répondre, est-ce que c'est bien d'avoir le goût de la révolte d'abord ? C'est forcément bien ?
C'est pas forcément.
Est-ce que le dialogue.
On dit toujours les Français sont des râleurs. Et bien là, ils râlent pas.
Voilà.
Alors qu'il y a des raisons de râler.
La question était est-ce que les Français ont perdu le goût de la révolte ?
Ils l'avaient, ils n'ont plus.
Eh bien, je suis pas sûr que ce soit pas bien. D'avoir perdu ce goût, parce que descendre dans la rue sans savoir pourquoi on descend, en évitant le dialogue, sans passer par.
Ceux qui descendent, ils savent qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois.
Sauf que comme le dit.
Que eux,
oui, mais souvent on n'écoute pas la réponse. Souvent on y va juste pour la contestation. Là, je trouve que ça m'a l'air un petit peu plus mesuré. C'est pas plus mal.
T'es en train de devenir allemand, Daniel, en fait. Parce que les Allemands, ils descendent jamais dans la rue. C'est rarissime.
Ils sont syndiqués.
Moi, je sais pas si je deviens allemand, mais moi, ce goût pour la manif permanente qui mène à rien, j'ai jamais été pour.
Je suis complètement d'accord. C'est la révolte, tue la révolte, et à force de crier au loup, on n'entend plus rien. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a deux phénomènes aussi, indépendamment de tout ce que vous avez dit, que je trouve très juste. Il y a d'abord, je pense, une montée de l'individualisme dans notre pays, on se bat de moins en moins de manière solidaire. C'est les cheminots vont se battre pour les cheminots, les profs vont se battre pour les profs. On a parlé de Total Energy, je crois, qui fait grève. Hein, c'est ça. Il y a une centrale qui a fermé en Normandie. Bon, ben voilà, ils se battent pour eux. Alors la retraite, ça nous lie tous. Mais là, c'est plus sur une augmentation
c'est la hausse
de salaire.
Hein, c'est la hausse des salaires. Le premier appel de la CGT.
Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indécence, parce qu'on a vu tous ces Ukrainiens arriver chez nous. On voit tous ces migrants arriver chez nous aussi, et qu'on voit tellement plus malheureux que nous, sans omettre que il y a le quart monde hein, en France et qui existe, mais qu'on se dit mais je vais pas les descendre dans la rue alors que à côté de chez moi j'ai une famille de Ukrainiens
une générosité. C'est que là aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent pas à boucler les fins de mois, hein. Il y a
bien
la moitié des Français qui ont plus d'argent sur leur compte le 10 du mois, donc c'est vrai qu'on aurait pu penser que ces Français ils allaient descendre dans la rue. En plus
on l'avait dit avant la fin de l'émission, avant l'été, on l'avait dit, vous allez voir que la rentrée sociale n'est peut-être pas si costaud que ça. Les gens se démobilisent, les gens sont fatigués, peut-être qu'ils n'ont plus d'espoir que cette réforme de. Alors, si on parle
mais
de
je pense pas que les gens se disent, il y a des.
Ah, si,
des
si, moi je pense
qu'il y a. Que moi, et donc je vais pas les sentir.
Je suis pas d'accord.
En revanche, je pense que les gens, ils vont pas descendre dans la rue en se disant je veux gagner plus d'argent, parce qu'ils savent que c'est pas en descendant dans la rue que leur salaire sera augmenté. Les grandes mobilisations dont j'ai parlé, c'était à chaque fois pour demander un truc simple et précis. Je reviens sur ce que disait Daniel. Oui. Le retrait d'un texte. Là, on ne sait pas ce qu'il y a dans le texte. Donc, se battre contre tout, ça ne mène à rien.
Mais comment ça, sans doute?
Bah, tu sais que c'est 65 ans.
Oui, mais je sais très bien. Mais l'allongement, les études montrent. Alors, déjà, il y a un truc qu'on aurait peut-être dû dire, c'est que la réforme des retraites, après, ça vaut ce que ça vaut, ce genre de classement, mais dans les préoccupations des Français, ça vient assez loin. C'est pas un sujet d'actualité. Donc déjà, il y a ce premier élément. Ensuite, sur l'allongement de l'âge de la retraite, les Français, globalement, sont pas contre. Ce qu'ils veulent savoir, c'est les contreparties. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un peu tout ce que tu disais tout à l'heure, Thierry.
Et sur la pénibilité,
et tant qu'on
ne
sera pas totalement clair là-dessus, et qu'on ne comprend pas, à quoi bon aller dans la rue, pourquoi faire?
C'est ça, oui, c'est ça. Alors, c'est aussi la fin des régimes spéciaux, cette réforme.
Ouais, ça, il serait temps, non, quand même, Estelle.
Ne me demande pas mon avis là-dessus.
Bah, si, j'ai envie.
Oui, je suis assez d'accord. je suis assez d'accord avec toi, mais on peut dire. Donc, normalement, ça met la SNCF.
Moi, j'aime bien ton avis, Estelle, moi.
Ah bon. Voilà. On est avec
les Français veulent savoir ce que tu penses, Estelle.
Je
pense que les Français veulent savoir.
Bonjour. Notamment contre les régimes spéciaux. En tout cas, ceux qui n'en profitent pas, ils sont contre, tu vois. On est avec Greg, qui est routier et qui nous appelle de Landroff, en Moselle. Bonjour, Greg.
Bonjour à toute l'équipe.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Greg, vous allez descendre dans la rue ou pas en début d'après-midi?
J'aimerais bien, mais on va dire que c'est impossible de nos jours.
Pourquoi?
On a tous des crédits de maison, on a tous du chauffage à devoir payer. Mmh. Là, j'ai installé un poêle à granulés à 12€ le sac, ça fait 120€ la semaine. Moi, j'ai une journée de salaire.
Ah, 120€ la semaine, c'est...
Pour une semaine, il me faut 120€ de granulés actuellement à 12€ le sac. J'ai une semaine de salaire, j'ai une journée de salaire qui va partir dans mon granulé. Donc j'ai pas trop le choix de devoir travailler et de pas pouvoir m'arrêter.
Et si vous aviez... Mais je comprends, effectivement, si vous faites grève, c'est une journée de salaire perdue. Greg, mais si vous aviez le choix, si vous pouviez financièrement là vous arrêter, vous le feriez ou pas? En tout cas, aller manifester.
Là, sérieusement, oui. Ah, sérieusement, oui, là, il y en a vraiment ras-le-bol. On nous prend vraiment pour des... Enfin, j'aime pas dire deux mots, mais...
Vous en avez marre de quoi, Greg?
De la vie chère, calculer sans arrêt. Ça devient navrant. Je pense qu'à bout de 20 ans de carrière, me retrouver toujours au SMIC à 11€ de l'heure.
Ouais, bien sûr.
Voilà, quoi.
T'as des étudiants qui prennent plus en faisant du babysitting, quoi. Donc effectivement, non, mais vous avez raison. Et votre situation, elle est celle de beaucoup de Français. Greg, pour reprendre ce que disait Emmanuel Dancourt il y a quelques instants, est-ce que vous vous dites pas, Greg, Emmanuel dit, il y a beaucoup de migrants qui arrivent en France et beaucoup de Français se disent, ils sont plus pauvres que moi, plus malheureux, donc je vais éviter de descendre dans la rue. Il y a plus malheureux que moi. Vous dites ça ou pas, Greg?
Non, personnellement non. Bon, voilà. Après. Bon, il y a des migrants, ok, il y a la guerre chez eux, il y a la guerre aux portes de l'Europe, on est tous dans le même sac, on doit aider les gens, et puis voilà, c'est vraiment pas ma priorité, je ne regarde pas les migrants ou quelque chose là-dessus. Non, c'est juste que voilà, on arrive à un moment, on nous indique comme quoi on va faire la guerre, qu'il y a la guerre en Ukraine, que c'est que la vie va devenir chère, tout ça, que
l'énergie. Cher.
On nous rajoute beaucoup de choses sur le dos pour tout, quoi, donc...
Ouais, vous semblez quand même. C'est vrai que vous semblez résigné, Greg. Ouais, ouais.
Totalement résigné.
Et après.
Crédits, on a tout à payer, la maison.
Bien sûr.
Et forcément, on n'a pas le choix, quoi. Travailler, quoi.
Et c'est vrai qu'effectivement, que si vous partez faire grève une journée, c'est une journée de salaire en moins. Merci beaucoup, Greg, d'avoir été avec nous. On va prendre Christine qui nous appelle de Saint-Satur dans le Cher et qui est retraitée. Bonjour, Christine.
Bonjour Estelle, ravie de... Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour. Ah bah écoutez, mais moi aussi Christine.
Je suis, Estelle, je suis, oui. J'espère qu'on ne me coupera pas.
Non.
Je suis consternée, je tombe de ma chaise, j'ai 67 ans. Et quand j'entends cette dame, Emmanuelle, qui, j'aimerais qu'elle me dise, je perçois 1081€ de retraite.
Wow.
Je ne peux pas soigner mes dents. J'ai dû vendre ma maison, j'étais propriétaire. Maintenant, je suis en location. C'est mes filles qui m'aident. Et l'argent que je mets de côté de la vente de ma maison, c'est pour payer mes aides à domicile que j'aurai plus tard parce que j'ai pas envie de mourir dans un EHPAD. Et j'ai fait 20 ans de social, madame. Je fais partie d'une association pour défendre les migrants. Donc 20 ans de social en région parisienne et Paris. Et j'ai vu la misère. Et ce n'est pas parce que, effectivement, moi, je suis une fille d'immigrés italiens. Il y a la misère dans le monde. Je suis allée au Burkina Faso, j'ai fait plein de choses, madame. Et j'ai, voilà. Et donc, je suis révoltée de ce que j'entends. Et je suis révoltée de, que l'on bientôt on n'aura plus le droit de manifester. On est des complotistes. On n'aura plus le droit. Moi, je baisse les chines. Vous comprenez, Estelle? Mes filles sont enseignantes. Est-ce que vous trouvez normal qu'au bout de 15 ans, on gagne 2000 euros net et que votre ancien ministre Blanquer, qui ne peut pas avoir un certain syndicat, je ne vais pas le nommer, Sud Solidaire, s'est permis de virer et de muter des enseignants qui étaient syndiqués.
C'est un autre débat, Christine, mais je vous sens très révoltée. Je vous sens révoltée, mais par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, Emmanuel, ne tapez pas sur vous, Christine.
Non, pas du tout, mais je suis très émue par ce que vous dites. En fait, vous ressemblez à beaucoup de gens de ma famille, donc je connais bien et j'entends toute votre colère et votre désespoir, et ça me brise le cœur. Mais ce que je disais, et juste pour faire un point, parce que vous parliez de vos filles, à partir de maintenant, les enseignants vont pouvoir toucher 2000 euros dès le départ, et heureusement, et c'était quelque chose qu'il fallait faire. Par rapport à ce que vous dites, c'est pas ça que je disais. Évidemment que vous avez le droit de descendre dans la rue, évidemment qu'il faut le faire, mais moi j'ai l'impression que les Français, ils sont en train de, on parlait avec le monsieur d'avant, de résignation. Et j'ai l'impression que les Français, ils sont résignés parce que plus rien va se...
Mais ils sont pas résignés parce qu'ils voient des gens plus malheureux qu'eux.
On a l'impression qu'il n'y a rien qui change, que ça sert plus à rien. Et donc voilà, c'est pour ça que ça va sans doute faire pchit aujourd'hui.
Merci en tout cas, Christine, de nous avoir appelé au 32-16. Voilà, Christine, qu'on sent révoltée par la situation actuelle. Bruno Cotrès est notre invité sur ce débat. Il est chercheur au CEVIPOF. Bonjour Bruno Cotrès.
Bonjour.
Bruno Cotrès, est-ce que vous êtes étonné par la très faible mobilisation pour cette grève générale? C'est vrai qu'on attendait beaucoup de gens. Il y a plein de motifs aujourd'hui d'aller manifester. Puis finalement, rien.
Non, pas vraiment étonné. Au fond, quand on regarde toutes les données que nous collectons à Sciences Po sur comment les Français voient leur situation aujourd'hui, on voit quand on leur demande les meilleurs moyens de s'exprimer, de faire valoir ses idées, c'est toujours le vote qui est très largement en tête.
D'accord.
Boycotter les produits, manifester et faire grève, ça vient en troisième et quatrième moyen, et c'est plutôt sur le déclin, en particulier manifester dans la rue, où une époque c'était presque 10 points de plus il y a une dizaine d'années. Voilà. Donc là, de ce point de vue-là, c'est pas tellement étonnant. Mais il y a des explications qui sont des explications. C'est l'état du pays. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui sont d'abord dans un état de très grande confusion de la situation politique et ne comprennent pas l'image de l'auditrice dont nous venons d'entendre un témoignage extrêmement poignant. Ne comprennent pas pourquoi ils vivent dans un pays riche, très riche, même d'une certaine manière, et pourquoi ils peuvent galérer autant à l'issue d'une vie sociale, professionnelle, tout à fait digne.
Alors qu'ils bossent en plus.
Voilà, tout à fait digne, en ayant été des citoyens qui ont respecté la loi, qui ont payé des impôts, on ne comprend plus très bien. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un mélange dans l'opinion, un peu de résignation, mais alors attention, sous cette apparente résignation, il y a aussi beaucoup de colère. Nous demandons régulièrement aux Français s'ils éprouvent de la peur, de l'angoisse, de la colère par rapport à la situation du pays. La colère est à un niveau assez important. Je vous donne une idée, sur une échelle de 0 à 10, en moyenne, la note des Français de colère, c'est entre 6 et 7.
Ouais, c'est beaucoup.
Donc c'est quand même très élevé. Voilà,
Ça veut dire quoi?
C'est une colère qui concerne quoi?
Voilà, c'est ça.
C'est une colère qui concerne en particulier les injustices et cette idée dont je parlais, qui est qu'on ne comprend pas pourquoi on vit dans un pays riche et qu'on galère quand même. Voilà. Et donc il y a un sentiment de colère aussi qui s'adresse aux politiques, qui est c'est peut-être aussi la difficulté des syndicats. La confiance dans les partis politiques est très basse. La confiance dans les syndicats est un tout petit peu meilleure, mais relativement basse. Et il y a aussi beaucoup de colère qui est adressée contre le politique en disant vous ne faites rien, vous vous occupez pas de nous. Ça fait des années que vous êtes en poste et vous avez l'impression tous les matins de découvrir les problèmes. Donc voilà, on voit bien qu'en France il y a de ce point de vue-là un climat général qui est un climat difficile.
Oui, c'est vrai que nous on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent moi je bosse comme un dingue et il y en a qui disent je gagne moins que mon voisin qui lui s'est mis au chômage. Bon alors ça il y a plein qui le racontent, mais bon ça c'est les témoignages de particuliers, mais beaucoup qui disent j'arrive pas à vivre de mon travail et ça c'est profondément injuste. Puis il y a les effets de seuil aussi qui cristallisent beaucoup de colère, mais cette colère de 6 à 7 sur votre échelle qui va de 0 à 10, Bruno Cotrès, elle va s'exprimer comment en fait, à votre avis? Si elle s'exprime pas dans la rue, il va se passer quoi?
Elle s'est exprimée très fortement, de manière incroyablement spectaculaire, en 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes.
Tout à fait.
Elle s'exprime aussi à travers, on a dit tout à l'heure que c'est le vote qui pour les Français continuait d'être le principal moyen d'expression publique, ben on a vu aux élections. On a vu aux élections.
Un vote contestataire.
Oui, voilà, mais là, il n'y a plus d'élections.
Un niveau de vote pour le Rassemblement National, pour la France Insoumise, pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, à des niveaux très élevés, très élevés. Avec effectivement de l'abstention aussi, c'est-à-dire qu'il y a une autre expression qui est celle de ce sentiment un petit peu de sidération, on est perdu, le sentiment de confusion, je l'ai dit tout à l'heure, est très important. Et là, c'est vraiment délicat, c'est le rôle normalement du politique de faire quelque chose, et puis aussi de surtout pas le laisser en état.
Alors restez avec nous, Bruno Cotresse, on a également le témoignage d'Éric qui nous appelle de Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric, vous êtes...
Mademoiselle.
Oui, merci Eric. Et vous êtes artisan, et c'est vrai que les artisans trinquent beaucoup en ce moment, notamment à cause de la flambée des prix de l'énergie. Eric, vous descendez dans la rue tout à l'heure ?
Non, je ne descends pas, je ne descendrai jamais avec les CGT.
Ah bon, d'accord, oui, ok. Et est-ce que vous êtes révolté quand même ?
C'est plutôt une bonne chose, ça.
Alors, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, par contre, j'ai peur de te faire un petit peu peur. Moi, par contre, si la flamme s'allume et que les gens me disent « on descend », tous les patrons, comme un peu les gilets jaunes, mais on s'est vidé. Mais ça va être un truc de dingue. Moi, j'étais contre les gilets jaunes. Je suis prêt à tout casser, Daniel. Je suis prêt à aller à l'Élysée, armé. Là, dans les réunions qu'on fait, on parle de remettre des politiques.
Éric, vous pouvez pas dire ça. Éric, vous pouvez pas dire ça. C'est pas que vous soyez révolté. Je le comprends, je l'entends, mais ce que vous dites, c'est inaudible.
Une fois que vous faites ça, que vous êtes dans votre délire qui vous fait dire des choses qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup de sens. Derrière, vous voyez quoi comme organisation ?
Éric, vous voyez quoi comme organisation
pour le pays ?
Il est très triste.
Non, mais je comprends sa douleur, mais derrière la douleur, vous faites quoi ?
On en parlera quand les gens pourront plus bouffer et pourront plus chauffer. Là, c'est encore le printemps. On en reparlera dans 6 mois. La colère, elle monte. Mais c'est un truc que j'ai jamais entendu. Ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Je n'ai jamais entendu ça. Dans les réunions, c'est des trucs de dingue. J'entends des trucs de dingue.
Mais quelle réunion, Eric ?
Ah ben, mais vous croyez qu'on va se laisser faire comme ça ?
Mais c'est qui,
on se fait des grandes réunions entre patrons, quoi faire, comment faire, quoi bloquer, quoi casser. Ah non, mais vous vous rendez pas compte. Moi, la colère, pour moi, elle va s'exprimer.
Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est les patrons, c'est-à-dire les patrons des TPE, les toutes petites entreprises, les moyennes entreprises. C'est-à-dire que, en fait, c'est des gens qui ne descendaient jamais dans la rue avant. Et là, vous dites qu'il y a une colère aussi au niveau des patrons. Et ça change, en fait.
Ma femme, elle est prête à descendre dans la rue. Quand elle m'a dit ça, j'ai cru que j'allais perdre un peu de cheveux qui me restaient sur la tête.
Elle fait quoi, votre femme ?
Elle est cadre commerciale.
D'accord. D'accord. Et vous, en tout cas, Éric, vous faites partie de tous ces Français en colère dont nous a parlé Bruno Cotresse. Merci, Éric, d'avoir été...
Sauf que derrière la colère, j'aimerais bien comprendre quel genre d'organisation sociale aimerait ce... Parce que moi, autant je comprends évidemment ceux qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et que le gouvernement cherche à aider ou qu'il faudrait aider plus, on peut en parler de ça. Mais ceux qui veulent aller plus loin...
Parce que tu vis sont
donc des
travail.
Gens qui finalement ne croient pas visiblement à la démocratie, ne croient pas au vote, au fait que quelqu'un soit élu ou pas élu. Donc finalement, par quoi ils substituent ce système d'organisation sociale ? Ils veulent quoi au fond ? Parce qu'il y a eu des élections très récemment. Certains veulent pas les reconnaître ou disent c'est pas, ça représente pas ou quoi.
Je pense malgré tout que il veut vivre de son travail, c'est tout. Quand on entend l'électricité qui fait x10, on le comprend.
Et on voit bien que le gouvernement aide, que la France est le pays qui aide le plus. Alors ça sert à rien parfois de relativiser parce que les gens ne veulent pas relativiser.
Oui, parce que c'est nous qui avons le moins de pauvres en Europe aussi.
Exactement, mais ça, visiblement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. On est le pays où on a la plus grande solidarité. Et malgré tout, il y a des gens qui veulent tout renverser. Donc s'ils veulent tout renverser, la question que je leur pose, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place dans un contexte européen ? Comment on s'organise ? On se coupe du monde, on fait notre petite révolution. Quel gouvernant on installe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vois pas quelle réponse il peut y avoir à
mais
ça.
Mais parce que toi, tu as du recul et t'as le temps de réfléchir. Et en fait, c'est vrai que pour beaucoup de gens aujourd'hui,
avant de prendre les armes pour aller renverser, vaut mieux avoir le temps de réfléchir un peu quand même. C'est bien beau. On prend plein de gens à l'antenne pour discuter. Je veux bien, j'entends le désespoir et c'est très bien. Mais quand le désespoir mène à entendre ce genre de choses,
mais c'est pour ça
qu'il y a un problème.
C'est pour symptôme de quelque chose. C'est le désespoir qui l'a fait parler.
C'est le symptôme du désespoir.
Et puis nous, on n'est pas à
quel point on ne l'écoute quand même.
Ce désespoir, si le politique ne l'entend pas, si le politique ne l'écoute pas, ça peut mal
finir.
C'est ça le problème, c'est le désespoir.
Alors en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Les Français ont-ils perdu le goût de la révolte? Thibaut, ça donne quoi?
Vous êtes 71% à penser que oui, les Français ont perdu le goût de la révolte. 29%.
Ça va faire plaisir à Daniel Riolo. Merci à Bruno Cotrez d'avoir été notre invité sur ce débat. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Dans un instant, tout autre sujet. Faut-il permettre aux détenus dans les prisons d'avoir Internet? En tout cas, il y a une lettre ouverte à Elisabeth Borne qui le réclame avec plusieurs députés. Dans cette lettre, on vous posera la question dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À partir de 14h, on aura une invitée spéciale dans l'émission, c'est Marlène Schiappa, et vous pouvez lui poser d'ores et déjà toutes vos questions au 3216. N'hésitez surtout pas, ou même sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. C'est Thibaut Texer qui reliera tous ces messages. On est également avec Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Thierry Moreau. Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi à la lettre ouverte du jour. Et cette lettre ouverte, c'est celle de 640 acteurs de terrain, dont des députés, à l'attention d'Elisabeth Borne, la première ministre. Il réclame la mise en place d'un accès Internet dans les prisons françaises pour faciliter la réinsertion des détenus et réduire la facture numérique. Et cette demande fait polémique, Thibault.
Et c'est une mesure qui existe déjà à l'étranger. C'est le cas de l'Allemagne, la Suisse ou encore les États-Unis, pays dans lequel les détenus peuvent échanger avec leurs proches par email via les ordinateurs généralement fixés sur des bornes. En France, l'interdiction n'est pas officiellement inscrite à la loi et c'est ce que dénoncent justement les signataires de la lettre ouverte envoyée à Elisabeth Borne. Ils réclament un débat public et législatif en la matière, estimant que l'accès à Internet est, je cite, primordial pour reconnaître les personnes détenues comme sujets de droit, limiter l'exclusion sociale causée par l'incarcération, mais aussi faciliter le retour à la vie libre. Il y a 2 ans, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté considérait cette privation comme une entrave aux droits fondamentaux. Pourtant, l'expérience a déjà été menée en 2009 avant d'être abandonnée. Mais depuis peu, 3 prisons françaises à Melun, Dijon et Strasbourg expérimentent le numérique en détention, un intranet qui permet entre autres de faire ses commandes en cantine ou encore de gérer ses créneaux de parloir.
Voilà, enfin, l'intranet, c'est pas comme Internet, quand même,
c'est
Simon,
il faut
quand même faire la différence. Est-ce que ça vous choque, vous, cette demande, Emmanuel Dancourt?
Ah bah pas du tout, ça va. Non non, il faut au contraire qu'on y accède. D'abord, la loi ne l'interdit pas, c'est une première chose. Thibault l'a dit, ça se fait en Suisse et ça se passe très bien, mais ça se fait pas qu'en Suisse, ça se fait dans plein de prisons en fait en Europe. Et à chaque fois,
on regarde quoi comme site?
On a prouvé, ils peuvent faire de la formation. Ils peuvent, alors après, j'imagine que tout ça est très contrôlé.
Limité,
de toute façon,
j'ose espérer que ce soit.
Non, mais tout ça est très contrôlé, mais ils peuvent faire d'informations. Ils peuvent s'informer. Le droit à l'information est un droit fondamental du citoyen. Ils peuvent avoir des mails, enfin voilà, échanger des mails avec leur famille. Le droit à l'intimité est un droit fondamental.
Après, dans les mails, il y a un nombre limité de caractères. Par exemple, aux États-Unis, c'est 13 000 caractères.
Et tu peux dire des choses quand même.
Oui, on peut
déjà
dire.
Déjà, tu peux dire des choses en 140. Donc,
et puis, c'est des gens qui peuvent. En fait, surtout, il y a 2 aspects. Il y a le fait que tu peux préparer ta réinsertion dans le monde, parce que finalement Internet c'est une liberté, une ouverture, et tu peux préparer ta réinsertion dans le monde.
Aller faire Erasmus.
Ah. Non mais, ça n'a rien à voir. Et c'est une première chose, donc ça te met en connexion avec ce monde-là. Tout ça est bien sûr très encadré. D'autre part, en fait, Internet est déjà partout dans les prisons sur des téléphones portables, faut quand même le dire. Donc c'est une manière de récupérer quand même cette affaire-là sur des ordinateurs qui sont sur des bornes, contrôlés, encadrés dans telle salle et pas dans telle autre. Et enfin, les études prouvent que d'où les pays d'Europe où ça s'est fait, dont le mien, la Suisse, qui sont des prisons qui sont bien mieux que les nôtres.
Hein, elle est de partout.
Je suis
une citoyenne du monde.
J'habite Dijon.
Quand l'émission démarre, on te présente de Dijon.
Ça, c'est vrai.
Elle pourrait dire un milliard de choses, Estelle, pour me présenter. Voilà, c'est.
Oui, je suis Dijon. Fait simple.
Voilà, elle fait simple. Mais je suis franco-suisse. Et en Suisse, tu vois, les prisons sont bien meilleures que les nôtres. Oui. C'est plus confortable. Enfin, ils sont mieux encadrés.
Et le taux de récidive en Suisse, enfin,
le taux. Mais dans tous les pays du Nord, c'est pareil. Le taux de récidive est beaucoup plus bas, et ça a été prouvé. Et toutes ces prisons-là ont pris Internet.
Daniel, je te vois bouillir depuis la prise de parole d'Emma. Est-ce que toi, ça te choque l'idée que des détenus puissent avoir accès à Internet?
Écoute, moi, je suis effaré que Emmanuel commence comme ça, sans même me dire avant à qui, pour qui et quoi. Parce que moi, je veux bien.
Bah, pour qui les prisonniers?
Oui, mais quels prisonniers?
Peu importe les prisonniers.
D'accord. Et ça te pose problème?
Ah oui, ça me pose un énorme problème,
T'énerves,
ça me pose un énorme problème. Parce que si tu me dis que c'est le mec qui a volé une pomme à l'épicerie du coin, je veux peut-être entendre qu'il ait le droit à regarder 2-3 sites. Mais si c'est un terroriste, un violeur, un assassin, excuse-moi, Internet, que dalle, quoi, tu vois. Parce que moi, depuis des années, ce que j'entends partout, alors en Suisse, ils le font, ou machin, ils le font et tout. La prison, depuis des années, moi, ce que j'entends, c'est que c'est réinsérer, c'est éviter c'est la récidive, c'est le confort dans les prisons, la France est sanctionnée, machin et tout. Mais bien le citoyen sûr. Français, tout ça, il en a rien à cirer.
Non, non, mais attends, non, non, c'est, je peux terminer, pas des sous-citoyens dans les prisons.
Je peux terminer,
hein.
Je peux terminer.
Des sous-citoyens je peux terminer. Dans les prisons.
Si, 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 ce si, ce sont des sous-citoyens qui ont fauté, qui ont causé du tort à la société, madame. Alors, je termine. Ce sont des sous-citoyens de mon point de vue. Donc, je termine. La prison, punition, réparation pour les victimes, et ensuite on discute du reste. Donc, le petit prisonnier, on va dire, le prisonnier, parce qu'il y a quand même une échelle de faute,
bah,
hein,
évidemment.
D'accord, ok, bah, bon. Donc, il y en a, ça se discute, il y en a, je suis scandalisé si un terroriste a le droit à Internet, ou à la télé, ou à la machin, ou à ceci, ou cela. Je suis scandalisé bah, si un violeur d'enfant...
discernement, Daniel.
Bah, ou si un violeur d'enfant a ceci, cela, voilà. Mmh. Voilà. C'est donc, il faut qu'on me dise à quel prisonnier on le donne. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Quel genre de site? Limité, pas limité? Il va écrire des mails à la famille aussi? Il va écrire des mails à ses copains qui sont dehors aussi? Bah, finalement, il a une vie normale, il est logé, nourri en même temps.
Tout ça est encadré. Ben
et bah, tout ça, en fait, moi, j'en ai rien à foutre de la vie des prisonniers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français qui sont dehors. Moi, qu'on aille se soucier de comment ils vont vivre à l'intérieur, pour certains, je m'en fous. Pour d'autres, enfin, qui ont des peines un peu réduites.
Non, mais est-ce qu'il compte,
moi, encore une fois, avant de parler de la réinsertion, moi, je veux que le mec soit puni, qu'il y ait réparation pour les victimes, et après, on parle du reste.
Et parce que tu parles fort, c'est toi qui as raison.
Non, je parle fort, pas pour avoir raison, mais parce que tu m'énerves.
Taisez-vous. Thierry Moreau, un peu sagesse dans
ce débat. Un peu de mesure.
Est-ce qu'il y a pas un problème. Attendez, juste un problème de timing. On a eu l'affaire du karting il y a quelques semaines.
Oui.
Est-ce que cette lettre ouverte, elle aurait pas pu attendre? Tu vois, un ou deux mois, tu vois.
Non, je pense qu'il faut remettre un peu de mesure après les propos outranciers de Daniel. D'abord,
les propos étaient justement mesurés.
Est-ce que je peux terminer? Merci. Aujourd'hui, les terroristes, comme tu les appelles, ceux qui ont fait les fautes les plus graves, ils sont de toute façon...
Comme je les appelle, comment on les appelle comment, autrement?
Bon, il y a un autre
nom.
Daniel.
Bah non, mais je veux savoir s'ils ont un autre nom, les terroristes.
Bon, les terroristes qui sont condamnés à des peines de prison sont... à l'isolement et ne peuvent communiquer avec personne.
Bon, pour le savoir. Première bonne nouvelle.
Non, on le sait, ça, c'est pas...
Non, je veux qu'on le dise.
C'est incroyable, ça. En France, on est dans un état de droit. La prison, c'est quoi? C'est te condamner à la privation de liberté, et seulement la privation de liberté. De surcroît...
Internet, c'est une liberté.
De surcroît, la privation de liberté, elle doit aboutir pour qu'on en sorte meilleur qu'on y est rentré. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rentré en ayant fait une faute doit sortir de prison meilleur que la façon dont il y est rentré.
Liberté et Internet te rend meilleur.
La liberté de quoi, Thierry?
Je pense donc que pour aboutir à cette réinsertion dans la société, pour que ces gens qui ont commis des fautes puissent à nouveau vivre parmi les Français qui sont dehors, comme tu les appelles...
Mais dans un premier temps, je m'en fous de ça.
Je voudrais terminer mon raisonnement.
On est en retard.
Dans cette réinsertion... Internet, aujourd'hui, dans notre société, est indispensable. Indispensable pour se former, indispensable pour correspondre avec sa famille, parce que le fait de ne pas correspondre avec sa famille peut être un problème. Alors après, tout ça sera très contrôlé. Les pays où c'est fait, c'est extrêmement contrôlé.
C'est parce que tu m'as dit.
Ben alors, renseigne-toi.
Pourquoi vous commencez pas votre discours là-dessus,
Daniel?
Parce que finalement, c'est moi qui suis mesuré dans l'histoire. J'ai dit que d'abord, il faut qu'on me parle de quel type de prisonnier, qu'on me parle de quelle liberté.
D'accord. Aux États-Unis, dans les pays où ça se fait, c'est contrôlé en nombre de caractères, comme tu l'as dit. C'est contrôlé sur les adresses mail auxquelles les gens ont le droit de s'adresser. Évidemment qu'un pédocriminel ne pourra pas consulter des sites pédopornographiques. Évidemment, tout ça est très contrôlé.
Thierry, évidemment, tu le dis maintenant.
Ça permet
Ça
permet juste.
Vous parlez sur
Et alors,
Michel.
J'entends la petite musique dont tu es le révélateur, qui est de dire que la prison, c'est le Claude Meb. Il faudrait qu'il soit plus que privé de liberté. Pourquoi pas rétablir les travaux forcés?
Thierry, t'es le premier à jouer l'assistante sociale en permanence ici quand des gens téléphonent pour dire j'ai des problèmes de pouvoir d'achat, et c'est très bien, tu as raison.
Oui.
Mais en revanche, sur les prisonniers, là, non. Sur les prisonniers, il faut les aider, il faut...
Il faut les réinsérer. Je dis pas les aider.
Mais d'abord, il faut les punir, ils réparent leurs fautes.
C'est
d'abord,
une privation
les
de
choses
liberté
dans l'ordre.
Et rien d'autre.
La prison. Liberté de quoi?
la privons, c'est de la privation.
Mais liberté de quoi? Liberté de quoi?
De circuler.
Stop.
C'est uniquement de circuler. Ah ben moi c'est, mais moi c'est liberté de se divertir, d'avoir la télé, de regarder, j'en sais rien moi, le match de foot du soir.
Et bien,
c'est liberté de tout.
Eh bien, tu as tort.
J'ai tort. Pourquoi j'ai tort?
Daniel, tais-toi.
Au nom de quoi j'ai tort?
Alors on va voir ce que.
Moi, je pense que les Français sont d'accord avec moi et pas avec toi.
Ce sont des associations spécialisées, c'est des visiteurs de prison. Ils connaissent le problème par cœur. Toi, tu débarques sur le problème. Tu t'es renseigné sur rien. Et tu te fous du problème.
Ok, alors justement.
Non.
Voilà. Bon, en tout cas, pour aller dans le sens de Daniel, il y a eu un sondage quand même sur le compte Twitter de l'émission. Accès à Internet pour les détenus, est-ce que ça vous choque?
Comme Daniel Riolo, vous êtes 69% à penser que oui.
Et eux, les Français, ils s'en foutent, ils les écoutent pleurer quand ils téléphonent à l'antenne, mais sur la sécurité, sur ce genre de choses-là, ça les intéresse pas.
Tu peux pas avoir le dernier mot sur un truc comme ça, Daniel. Renseigne-toi sur ce que c'est vraiment que la prison.
Et bah, dis que les Français sont des cons, Emmanuel. Faut pas que les Français sont des cons.
Tu réfléchis pas sur la récidive.
Mais dis que les Français sont des cons et qu'ils réfléchissent pas. Qu'est-ce que je te dis,
en fait, taisez-vous. Dans un instant, Anthony Morel. Heureusement qu'il y a Anthony Morel, on va avoir un peu de calme sur ce plateau. Vous avez toujours rêvé de devenir invisible. J'aimerais que vous soyez invisible, Daniel, là, en ce moment-là. Eh bien, c'est possible.
Pourquoi
grâce.
Pas moi, pas eux.
Parce que t'es insupportable.
Parce que t'es
grâce aux vêtements furtifs, Anthony Morel nous en parle dans un instant. Et puis Marlène Schiappa, bah tiens, elle va être contente de venir sur ce plateau, Marlène Schiappa, à partir de 14h. Daniel est très chaud, et ça tombe bien. Vous pourrez poser toutes vos questions à la secrétaire d'État. Vous nous appelez au 3216. On lui parlera notamment des violences faites aux femmes, évidemment, et de la réforme des retraites. Ce sera à partir de 14h. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Anthony, en vous accueillant, j'ai la larme à l'œil. J'ai envie de pleurer parce que vous allez réaliser mon rêve aujourd'hui. Pouvoir devenir invisible.
Ouais, alors invisible aux yeux des caméras. C'est ça, en fait.
Moi, j'étais dans l'homme invisible et tout ça.
Non, mais alors ça, d'accord. On fera une autre chronique parce qu'il y a effectivement aussi des capes d'invisibilité de façon Harry Potter. Ça, c'est en train d'arriver, mais ce sera l'objet d'une autre chronique. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler des vêtements furtifs. De moi, ce que j'appelle la mode anti-Big Brother. C'est-à-dire qu'on trouve maintenant sur Internet tout un tas de vêtements, d'accessoires qui sont spécifiquement conçus pour tromper les caméras de surveillance et surtout les caméras biométriques, celles qui utilisent de la reconnaissance faciale qu'on n'a pas encore en France, mais qu'on trouve dans certains pays.
C'est des trucs de délinquants, quoi.
Alors, c'est pas des trucs. Je vais vous expliquer après. Dark Web, ton truc, là.
Comment?
Qu'est-ce que tu dis?
Dark Web, ton truc.
Non, c'est pas forcément le truc qu'on trouve sur l'Internet tout à fait traditionnel.
Ah bon,
sur la partie normale d'Internet, on va dire comme ça. Donc, c'est par exemple des t-shirts avec des motifs pixelisés qui vont attirer l'œil numérique de la caméra et qui vont le tromper, en fait, le leurrer et vous allez vous devenir invisible. On trouve aussi des casquettes d'invisibilité avec des petites gueules luminescentes qui vont envoyer des points de lumière sur votre visage.
Ça doit être joli.
Là encore, pour trouver. Non, ça se voit pas. Normalement, c'est juste la caméra qui ne voit absolument plus rien. Mais pour la personne lambda qui vous croise dans la rue, normalement, ça ne change rien. Des lunettes qui fonctionnent sur le même principe. Donc vraiment, il y a une mode autour de ces vêtements furtifs qui sont en train de se développer.
Bon, alors, en France, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Sauf effectivement, si vous voulez tromper la police. Enfin bon, alors, je veux dire, ça sert pas à grand chose. Mais évidemment, il y a des pays dans lesquels c'est absolument formidable.
Alors c'est là que je voulais en venir. Et je reviens à ce que tu disais. C'est vrai que c'est pas très joli. Enfin, esthétiquement, on a vu mieux. Mais ça peut être hyper intéressant dans des pays où on utilise beaucoup la reconnaissance faciale à des fins de répression. Je pense par exemple à l'Iran. Vous avez suivi tout ce qui se passait en Iran. Là, ils sont en train de réfléchir au fait d'utiliser des caméras biométriques qui sont capables de détecter qu'une femme porte bien le voile, que son maquillage n'est pas trop appuyé, que ses vêtements sont pas trop courts, et de les identifier pour pouvoir ensuite les réprimander. Donc voilà, ça va quand même très très loin. Je parle même pas de la Chine, voilà. On a carrément des expérimentations où la police utilise des lunettes avec des caméras à reconnaissance faciale et en scannant la foule du visage, en tournant la tête, eh bien, vont s'afficher dans leur champ de vision les personnes qui sont recherchées par la police.
Si après tu te fais choper avec le t-shirt, tu prends double.
Alors voilà,
c'est
effectivement.
Ouais, bah, après tu finis ton partir choper, on te voit avec ton t-shirt, ça dit hop, viens par ici.
Alors tu as raison, en fait, je pense que c'est un jeu de chat et de la souris, c'est toujours la même chose entre la technologie et ceux qui essayent de lutter contre cette technologie. Mais on l'a vu au moment des manifestations à Hong Kong, il y a beaucoup de manifestants qui utilisaient par exemple des lasers pour essayer de tromper justement les caméras à reconnaissance faciale. Donc on voit bien qu'il y a, en tout cas, il y a une tendance autour de ces technologies, dans certains pays où la reconnaissance faciale est quand même utilisée à des fins assez autoritaires, on va dire comme ça.
Mais en tout cas, on est bien d'accord que la reconnaissance faciale en France, c'est interdit dans la rue.
Oui. Pour l'instant, oui, c'est très encadré. Il y a la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui travaille beaucoup là-dessus. Il y a des expérimentations quand même qui sont menées. Il y en a eu, par exemple, pendant le Festival de Cannes, pour des caméras qui étaient capables de, de détecter dans la foule des personnes qui sont recherchées par la police. Alors là, qui avait dit non, finalement, on va pas le faire. Dans les lycées aussi, il y a eu des expérimentations autour des stades de foot également, hein, pour détecter des personnes qui sont interdites de stade. Ça, ça a déjà été testé.
Et ça, c'est vrai bien, qu'il y a... c'est voilà, très bien. Voilà,
et un prisonnier qui aurait libre accès à Internet, il peut commander le t-shirt, après il s'évade.
Non, mais c'est...
Il trompe les caméras.
Rigole, mais c'est... moi, je
il écrit un mail à Emmanuel Dancourt qui lui répond, il lui fait livrer le t-shirt.
Tu sais, je pense que c'est vraiment, au-delà de la blague, c'est un débat de société qu'on va être obligé d'avoir, en fait. Avec tous les débats sur l'insécurité, là, on a beaucoup
parlé. Je sais pas si j'ai vraiment envie de l'avoir aujourd'hui, mais bon.
Non, là, c'est peut-être pas le bon moment. Je suis peut-être pas arrivé au bon moment. On est d'accord. Mais c'est un débat qu'on va devoir avoir et qui dépasse largement le champ de la technologie pour arriver sur la philosophie, la loi et la société dans laquelle on veut vivre. Certains, en entendant ça, vont être peut-être horrifiés et se dire, mais jamais je veux vivre dans une société où on est capable de m'identifier avec une caméra. D'autres se diront, bah, peut-être qu'effectivement, c'est un pas de plus pour lutter contre l'insécurité. Si on était capable de détecter au moins des personnes recherchées par la police, par exemple, ça ferait peut-être pas de mal.
Évidemment, voilà. Ça ferait pas de mal. Anthony, on parle de quoi demain?
Demain, si vous êtes sage, il y aura atelier dégustation avec des gâteaux, des petites pâtisseries.
Ah, c'est vrai?
Et des pâtisseries un petit peu
plus. Ah, le vendredi, c'est Top Chef, tu sais plus la technologie.
Vendredi, c'est pâtisserie.
Ah, d'accord.
Il a tout compris. Il a tout compris. Il y a des pâtisseries imprimées en 3D. C'est une française. Ah, bah non, mais vous pouvez. C'est marrant votre réaction. Ah, non, parce que c'est tout aussi bon que des pâtisseries normales. C'est absolument pas en plastique.
Comment ça, c'est bon si ça se mange pas, si c'est en 3D?
Bien sûr que si, ça se mange.
Mais Daniel,
il n'y a pas du plastique dans les imprimantes 3D.
On peut imprimer de la nourriture.
Bon, dans un instant, on parlera d'Engie et de Total qui veulent verser des primes pour ceux qui font des économies d'énergie chez eux cet hiver. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et puis n'oubliez pas, Marlène Schiappa, secrétaire d'État, sera notre invitée à partir de 14h. Vous pouvez lui poser toutes vos questions dès à présent au 3216 ou sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.